9h22 minutes, c'est le Salon de l'Auto de Montréal, évidemment, événement annuel toujours très attendu. Et parmi les invités du Salon cette année, Vincent Courbet, qui est vice-président stratégie, produits et développement des produits chez Mitsubishi. Monsieur Courbet, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes à Montréal. Habituellement, vous êtes au Japon, donc à la maison mère. Quelle raison précise vous amène à Montréal pour le Salon de l'Auto?
Je crois qu'il est très important pour nous, et surtout pour moi qui suis en charge des développements de produits amont, on va dire. Donc, mon travail, c'est d'envisager ce qu'on doit faire dans les 5-10 ans à venir, de connaître un grand nombre de marchés. Ce qui est très intéressant pour nous, au Canada de façon générale et au Québec en particulier, c'est l'émergence de la demande pour les véhicules hybrides rechargeables. Cette combinaison de VUS pour satisfaire les besoins du client et d'énergie renouvelable. Et comme vous le savez certainement, Mitsubishi a eu un lancement très réussi de la Outlander PHEV l'année dernière. Et c'est important pour moi de sentir, de comprendre ce marché. Et c'est un de nos marchés les plus importants pour ce développement technologique.
Et quand vous me dites projeter pour les 10 prochaines années, qu'est-ce que vous projetez pour les 10 prochaines années?
Là, on rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Je pense que tous les gens qui sont passionnés d'automobile comme nous se rendent compte que, après, on va dire, un gros siècle de développement plutôt par évolution lente de l'industrie automobile, on voit face à nous des révolutions majeures. On peut parler de véhicules connectés, on peut parler de véhicules électrifiés, mais bien au-delà, on va parler de véhicules autonomes, on va parler de véhicules partagés. Donc, tout l'enjeu pour des fabricants automobiles, je dirais traditionnels, comme Mitsubishi, qui avons vendu des véhicules à travers le monde pour plus de 70 ans. Et comment est-ce que nous nous adaptons? Comment est-ce que nous adaptons notre offre demain aux véhicules connectés, aux véhicules électrifiés? Et après-demain, comment est-ce que nous participons de ces nouveaux écosystèmes, si je peux le dire, du véhicule partagé, du véhicule autonome?
Prenons quelques exemples à partir de ce que vous venez de nommer. Quand on parle du véhicule autonome, on a vu les expériences menées, Google, entre autres, aux États-Unis, d'autres qui font ça. Est-ce que il est réaliste de penser que le véhicule autonome sera un véhicule utilisé par la moyenne des automobilistes dans les 10 prochaines années? Est-ce qu'on est encore dans un véhicule assisté, dans un véhicule plus ou moins autonome, ou si vraiment je pourrais m'asseoir dans un véhicule et me laisser conduire?
Oui, je pense que ça, c'est une question à 10 milliards de dollars. si vous voulez, si on regarde le sujet d'un point de vue assez distant. Quelle est la valeur fondamentale du véhicule autonome? Pour moi, il y en a deux. La première, c'est le gain de temps. C'est-à-dire à tous, autant que nous sommes, on va passer 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour dans des transports privés ou publics, et c'est généralement vécu comme une perte de temps. Si vous avez le développement de véhicules autonomes, vous redonnez ce temps à vos clients, et donc vous permettez plus de vie sociale, plus de vie professionnelle, un meilleur équilibre. Donc il y a une énorme valeur latente de retourner le temps aux individus. Le deuxième, qui est aujourd'hui plus un pari qu'une réalité démontrée, est la sécurité. Parce que forcément, des détecteurs vont être plus rapides, plus compétents, plus fiables que l'œil humain, que le comportement humain. Donc, l'objectif très long terme, il est clair. Redonner du temps, apporter de la sécurité. Maintenant, il y a tout un tas de barrières à franchir pour arriver au véhicule autonome. Il y a une première qui est la technologie. Je pense qu'on peut être relativement confiant.
Mais les gens ont cette inquiétude en disant la technologie, oui, existe, mais des problèmes informatiques peuvent se produire. Est-ce qu'il y a cette espèce d'angoisse en disant l'ordinateur central va connaître des défaillances?
Non, mais ça, je pense que la question, elle est totalement légitime. Et elle va diriger notre réflexion, nous, en tant qu'écosystème industriel, on va dire. C'est aussi un phénomène de conviction et d'éducation. Parce que si vous regardez votre vie, elle est très largement dirigée par une technologie. Quand vous prenez l'avion, quand vous utilisez une carte de crédit, quand vous achetez par Internet, votre vie est très profondément imbriquée dans une technologie. Le cas particulier de l'automobile, c'est qu'effectivement, on arrive à développer des scénarios en disant « Mais comment un robot, comment un système, comment un software va être capable de répondre à cette question ?» Et ça, c'est une vraie question légitime. Aujourd'hui, je pense qu'il est raisonnable de dire une machine va être 10, 100, 1000 fois plus fiable qu'un être humain. Le débat qui reste est, même si c'est 1000 fois moins, comment est-ce qu'on va expliquer le 1 pour 1000 où une machine, un programme va avoir fait une erreur? Donc ça, C'est, pour moi, il y a bien deux étapes. Il y a une étape, est-ce que technologiquement on sera capable ? La réponse est probablement oui à un horizon de 5 à 10 ans. Est-ce que socialement et légalement on sera capable d'accepter ? Ça, je pense que le débat est en cours, c'est loin d'être avéré. Et puis ensuite, c'est est-ce que ça marchera dans tous les cas ? Et je pense que la réponse à la troisième question, elle est qu'en fait, vous verrez des véhicules autonomes dans des sites dédiés, dans des situations particulières. On parle de smart cities, on parle de corridors, on parle de véhicules utilitaires, où relativement facilement, on arrivera à mettre en place des systèmes. Avant que ça arrive dans toutes les rues à tous les moments, là, on parle d'horizon plus lent.
Les fabricants de voitures, évidemment, et vous le disiez tantôt, là, développent des produits pour plusieurs marchés. Et quand je regarde l'Amérique du Nord, par exemple, où vous avez des normes environnementales en Californie, dans certains autres États américains, c'est complètement différent ailleurs. Le Québec a aussi le Canada a aussi ses normes. Comment vous ajustez compte tenu du marché et compte tenu des demandes des consommateurs?
Non, mais là, je pense que vous touchez un point particulièrement sensible et fondamental de l'industrie automobile. Si on regarde les 10 dernières années, il se passe que il y a... Je ne sais pas si on doit parler de durcissement. Il y a un renforcement, il y a une amélioration des normes environnementales, sécuritaires et d'autres dimensions d'ailleurs à travers le monde. Ce qui est un enjeu pour nous, fabricants automobiles, c'est une divergence. C'est-à-dire le fait qu'on fasse des véhicules plus propres, je pense que tout le monde est en faveur de cette destination-là. Comment le faire, sur quel horizon, combien de temps vous nous donnez pour nous adapter à cette nouvelle règle du jeu est un sujet de discussion. Mais la destination, on est tous d'accord. Fournir plus de sécurité, évidemment, on est tous d'accord. Fournir plus de connectivité, c'est une demande générale. Donc tout ça va bien. Par contre, vous rendez compte que l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, l'Asie de l'Est prennent des directions très différentes. Et là, il y a un enjeu que je trouve particulièrement intéressant. C'est qu'en fait, pour nous fabricants, le fait qu'un gros marché et un système réglementaire unique nous donne une opportunité d'investissement. Et aujourd'hui, ce gros marché avec un système réglementaire unique, c'est plus les États-Unis, c'est la Chine.
Et en fait, si... Et ça devient quoi? Ça devient l'élément de référence?
Ben, ça devient ce qui tire l'investissement technologique. Parce qu'en fait, quand vous pensez émissions, quand vous pensez véhicules autonomes, quand vous pensez sécurité, si vous investissez dans les technologies nécessaires en Chine, vous avez 30 millions de clients en face de vous. Si vous faites les États-Unis et le Canada, vous avez un peu moins de 20 millions. Et encore, le Canada, comme vous le savez, n'est pas exactement aligné sur les États-Unis en termes de réglementation. L'Europe de l'Ouest, c'est 15 millions. Donc, on parle bien de poids très élevé, mais l'événement des 10 dernières années, c'est que la Chine est passée d'un marché un peu marginal qu'on faisait en troisième ou quatrième considération à un marché leader en termes de volume, en termes de progrès réglementaire ou d'évolution réglementaire. Et ça devient un des éléments majeurs de développement.
Il y a évidemment les joueurs, là, par exemple les constructeurs américains, les Allemands et les constructeurs japonais, dont Mitsubishi. Il y a eu, par exemple, le scandale du Dieselgate qui a touché Volkswagen, qui a touché Audi. Quel est l'impact de ces scandales-là ou de ces controverses auprès des autres fabricants? Est-ce que ça affecte les ventes, ça modifie les façons de faire?
Vous savez, je crois que c'est... Premièrement, très difficile de parler des autres. On a déjà beaucoup de mal à comprendre la complexité de nos industries. On va essayer d'éviter de parler des problèmes des autres. Je crois que ce qui est très important, c'est qu'en fait, l'automobile, depuis plus de 100 ans, c'est un facteur de liberté. Ça vous donne la possibilité de trouver une maison, un travail, une famille. Ça vous donne la possibilité de découvrir l'environnement qui vous entoure. Et je crois qu'il y a derrière l'automobile ce rêve fondamental du transport individuel, de la liberté. Quand notre industrie, et c'est arrivé un certain nombre de fois au cours des 10 dernières années, est touchée par des scandales de perte de confiance, je pense que nous avons tous à y perdre. Parce que, idéalement, l'industrie automobile, elle participe du progrès de la société, elle ne participe pas de la rupture de confiance. Et si on se met... dans le futur, et si on regarde ce qui va se passer, il y a un élément du développement technologique que je trouve très intéressant, c'est que quelque part, depuis une vingtaine d'années, l'automobile est perçue comme un contributeur de la pollution. Et si on se projette dans 10 ans, en fait, l'automobile, elle va devenir une solution. Elle va utiliser des énergies renouvelables, elle va aussi fournir des opportunités de stockage d'énergie entre le jour et la nuit, entre le week-end et la semaine, et elle va devenir un acteur majeur des réseaux d'électricité, par exemple. Donc, je pense que...
Mais l'autre réalité, vous parlez de la Chine tantôt, mais on peut en parler, puis on peut parler aussi de l'Amérique du Nord. La conversion à un véhicule plus propre, c'est une chose, mais quand on regarde les infrastructures, par exemple, si je prends juste le marché de Montréal ici, l'heure de pointe est infernale parce qu'il y a beaucoup de voitures qui arrivent en même temps. Vous habitez le Japon, j'imagine que c'est assez intense aussi. Est-ce qu'il va y avoir une baisse, selon vous, du nombre de voitures ou que les gens vont se tourner davantage vers des transports collectifs?
Là, c'est une deuxième question à 10 milliards de dollars, ce que vous venez de poser. Et vous savez, avant de faire de l'automobile, je faisais du transport public. Donc, j'ai un intérêt personnel important pour ce sujet-là. Aujourd'hui, tous les pays sont différents. Si je prends l'exemple du Japon dans lequel je réside, plus de 90% des trajets domicile-travail se font en transport public, principalement des trains. Donc, on a un marché automobile fort, mais en fait, un taux d'utilisation très faible. Les gens utilisent leur véhicule le week-end ouais. Et une ultra-minorité utilise son véhicule pour aller au travail. Demain, si vous passez en véhicule autonome, si vous passez en véhicule partagé, la question fondamentale pour le régulateur, pour l'opérateur, c'est ça représente moins de véhicules ou plus de véhicules sur les routes? Et je crois que la réponse à cette question-là, on ne la connaît pas. Faut être très honnête. Mmh. Parce que si demain, je vous dis, vous avez... en véhicule partagé, un véhicule autonome, indépendant pour vous, qui vous apporte de chez vous au bureau pour un coût inférieur au coût de propriété d'un véhicule personnel, vous allez dire, je vais arrêter de prendre le train ou le bus, je vais prendre ce véhicule. Mais si tout le monde fait ça, il y a des embouteillages. Donc, je crois que on rentre vraiment dans une phase de l'industrie automobile où des acteurs comme nous, des fabricants automobiles, des gestionnaires de technologie, parce que c'est ça que nous sommes, vont avoir des discussions de plus en plus élaborées avec des opérateurs de transport sur, OK, quelle est l'offre que nous faisons? Parce que la technologie, qu'elle soit une technologie software, une technologie véhicule, elle permettra ces véhicules autonomes, indépendants, en site contenu. Mais l'impact sur les sociétés, sur la vie de tout un chacun, c'est une décision du régulateur, de l'opérateur. Et ça, c'est des discussions qu'on commence à avoir à quelques grandes villes.
C'est sûr. Parlez-moi de l'alliance, parce qu'au Japon, il y a cette alliance, là, Nissan, Renault, Mitsubishi. Ça fonctionne comment, cette alliance-là? Puis c'est quoi l'objectif?
Alors, ça fonctionne avec des règles qui sont très simples. Moi, j'ai le plaisir et l'honneur de travailler au sein de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi depuis bientôt 17 ans. Il y a deux principes fondamentaux. Le premier, c'est que quand vous travaillez dans une industrie comme l'automobile, si vous vendez 1 million, 2 millions, 3 millions de voitures par an, vous êtes trop petit pour faire face aux défis technologiques dont nous avons parlé depuis 10 minutes. Vous n'êtes pas capable d'apporter du véhicule autonome, du véhicule électrique, du véhicule connecté et de vous adapter à 10, 15, 20 différents environnements réglementaires. Mmh. Donc vous avez besoin de taille pour avoir ce développement de technologie fondamentale. Donc l'alliance, 10 millions de voitures, 11 millions de voitures, ça vous donne cette taille. Vous êtes le fabricant le plus large en termes d'investissement technologique au monde. Et donc, vous avez l'intérêt des fournisseurs les plus importants, vous avez la capacité d'investissement et vous pouvez couvrir le monde. Le deuxième principe fondamental de l'alliance, c'est le respect des entreprises et des marques. C'est-à-dire, moi, j'ai la charge et l'honneur de planifier le futur du produit Mitsubishi. Je le fais en conscience vis-à-vis de la marque, vis-à-vis de nos opportunités.
Est-ce que Nissan est un compétiteur pour vous?
Dans la rue, oui. Vous savez, c'est une industrie qui vit depuis plus de 100 ans parce qu'on respecte notre client au point d'être des compétiteurs l'un face à l'autre. Parce que le progrès de l'industrie automobile, si vous vous souvenez de ce qui se passait il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, le progrès de l'industrie automobile, il est dirigé par la compétition. Donc l'alliance, elle est très claire vis-à-vis de ça. On partage les technologies, on partage les investissements. Mais par contre, dans la rue, dans les concessions, nous sommes compétiteurs.
Il faut que je vous parle évidemment de ce qui est arrivé au patron Carlos Ghosn, qui a été arrêté au Japon, détenu, accusé. Quel effet ça a eu sur l'entreprise?
Oh ben, vous savez, je crois premièrement que vous en savez autant que moi, certainement même plus. Je pense qu'à titre personnel, il est évident qu'il y a une dimension très forte de tristesse, parce que c'est des moments pas faciles à vivre. Après, pour l'entreprise, si vous voulez, si vous regardez Mitsubishi, depuis 2 ans, ça fait un peu plus de 2 ans que Mitsubishi fait partie de l'Alliance, ça a ouvert des horizons phénoménaux pour Mitsubishi. On parlait de partage de technologies, on parlait de développement géographique. Donc, L'instruction est très légitime au sein de Mitsubishi, c'est garder vos yeux sur la balle, comme on dirait en anglais, et assurez-vous que la performance de l'entreprise au jour le jour, son évolution, la redéfinition d'un futur brillant pour Mitsubishi continue d'avancer. Je pense qu'il est... Il est important de reconnaître que M. Ghosn a eu un impact majeur dans la création de l'Alliance, dans le développement des entreprises. Après, l'Alliance, elle est au-delà d'un homme. Elle a des process, des savoir-faire, des systèmes en place pour assurer la pérennité de ce développement. Et je crois que Mitsubishi a énormément à gagner de parfaire et renforcer sa collaboration avec l'Alliance. Et c'est ce sur quoi nous nous focalisons.
Bon salon de l'auto. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci beaucoup. C'était un plaisir.
Vincent Kobe, qui est vice-président stratégie, produits et développement des produits Mitsubishi. 9h38, pause. On revient après pour la suite.